Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Qu'elle éclaire, Seigneur, nos pas sur le sentier de la vie. Bénis maintenant ta servante Clémence, que tu as renouvelée. Qu'elle nous annonce ta parole de ta part, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes en début de temps de carême. C'est vrai que c'est un temps qu'on n'a pas forcément l'habitude de célébrer réellement chez les protestants, mais c'est quand même important, je pense, de revenir en tout cas à l'esprit de ce carême. Et pour ce premier dimanche, eh bien, nous voulons nous interroger sur ce qui nous retient encore loin de Dieu. Nous voulons nous souvenir, comme les Israélites, de nos traversées du désert. Et par-dessus tout, nous voulons nous remémorer chacune des libérations dont nous avons fait l'objet de la part de Dieu. Et je pense qu'elles sont nombreuses. Libération d'une dépendance, libération d'une addiction, d'un péché enfoui, d'une tentation qui nous faisait chuter, d'une relation néfaste, etc. Je pense qu'on pourrait allonger la liste longtemps. Dieu veut nous libérer parce qu'il nous aime. Il veut nous purifier afin que nous célébrions sa gloire. Et Dieu n'a pas changé. Il est intervenu hier et il intervient encore avec la même force. Soit l'on croit, soit l'on doute de sa puissance. Et c'est bien de cela qu'il est question dans ce texte. Je crois que c'est d'une actualité alarmante pour nous chrétiens, pour l'Église et pour le monde. Alors je vous invite à la lecture de la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça siffle. Dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avec ce texte, nous sommes face à ce que l'on pourrait appeler la théologie du doute, promue par Satan, qui, dès le jardin d'Éden, met en doute la parole de Dieu avec cette fameuse phrase « Dieu a-t-il réellement dit ?» Depuis, il ne cesse d'utiliser encore et toujours la même tactique. Et ce qui est grave, c'est que même en tant que chrétiens, nous pouvons sombrer dans cette sorte de théologie. Nous en avons la preuve tout autour de nous. Il existe un vrai danger pour les églises de sombrer dans le relativisme, dans le rationalisme. Car la finesse de Satan est grande. Il ne pousse nullement à renier Dieu et à devenir athée. Ça serait un petit peu trop facile à voir. Il ne fait qu'insinuer que peut-être nous avons mal compris. Ou que Dieu n'a pas vraiment dit ça. ou encore que nous pouvons et devons tout examiner à la lumière de la raison humaine, alors qu'au contraire, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous devons tout examiner, afin de ne retenir que ce qui est bon. Nulle place pour la raison ici, puisque la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Comment pouvons-nous prétendre comprendre ou analyser Dieu? À cette théologie du doute promue par Satan, il faut opposer la théologie de la foi à l'exemple de Christ. Jésus dit à Marthe, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et à l'inverse de cela, Thomas s'écrie face à la foi des disciples, « Si je ne vois pas, je ne croirai pas. » La foi doit se fonder sur la parole de Dieu, elle doit être enracinée en elle et à tout instant s'y raccrocher. C'est ainsi que la foi est comptée comme justice, comme nous le dit la parole en citant l'exemple d'Abraham. La foi n'est pas logique, pas plus qu'elle n'est raisonnable. Croire, c'est espérer contre toute espérance. Déjà, la définition, on voit bien qu'il n'y a rien de très logique. C'est l'exemple que nous montre le Seigneur, croire, espérer, en se fondant sur la parole de Dieu, même au cœur de l'épreuve, en face du tentateur. Le Père ayant juste avant exprimé qu'il trouvait ses délices dans son Fils bien-aimé, Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus est le Fils de l'homme, saint, sans péché, parfaitement dévoué à la volonté du Père, rempli de l'Esprit, et conduit avec sûreté par l'Esprit, dans le but précis d'être tenté par le diable. Dieu est derrière tout cela, à la fois pour prouver la perfection morale intangible du Seigneur Jésus en face des tentations les plus subtiles du diable, et aussi pour mettre au jour la futilité des efforts de Satan contre lui. Était-il possible que le diable trouve un moyen pour le vaincre? Absolument pas. Était-il possible que le Seigneur de gloire béni puisse faillir devant la mise à l'épreuve la plus dure? Absolument pas. Cela avait été réglé quelque part par l'approbation du Père qui avait été donnée avant. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Se pouvait-il que le Père se soit trompé? Jamais. Considérons le contraste ici entre Adam et le Seigneur Jésus. Adam était dans un environnement de beauté et d'abondance dans le jardin d'Éden. Il ne lui manquait rien, et pourtant, il a péché. Christ était dans un lieu désolé, n'avait rien mangé depuis 40 jours, il avait faim. Et cependant, les tentations du diable ne rencontrent pas chez le Seigneur la moindre tendance à céder. Que ces tentations concernent l'orgueil de prouver qui il est, qu'elles se rapportent à ses besoins physiques ou à la convoitise humaine pour la richesse et le pouvoir, ou qu'elles s'appliquent au simple désir de faire une bonne impression sur les hommes. La réponse du Seigneur Jésus, dans tous les cas, c'est l'Écriture appliquée au cas précis. Il vivait de la parole de Dieu, ne s'en écartant jamais dans le moindre détail. Voilà le merveilleux Fils de Dieu, notre Seigneur. Il est clair que Luc nous donne les tentations dans l'ordre moral et non dans l'ordre historique. Si vous comparez avec les autres évangélistes, ça ne vient pas dans le même ordre, les tentations. En premier lieu, donc, chez Luc, nous avons la tentation charnelle, ensuite une tentation mondaine et enfin une tentation spirituelle. La première tentation avait clairement pour but de s'adresser à la convoitise de la chair, la deuxième à la convoitise des yeux et la troisième à l'orgueil de la vie. Mais notre Seigneur est étranger à toute convoitise et à tout orgueil. Ces trois épreuves ne servent qu'à révéler son absolue perfection. Et on voit que ces tentations se rapportent aux trois genres de convoitises par lesquelles le premier Adam a succombé. Nous lisons en Genèse 3, verset 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était un plaisir pour les yeux, c'est le deuxième, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Voilà les trois convoitises. À ce passage correspond celui de 1 Jean, au chapitre 2, le verset 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et on reconnaît facilement le caractère de ces trois genres de convoitises dans ce que le diable place devant Jésus. Alors regardons-les un peu en détail. La première attaque de l'ennemi est l'occasion pour Jésus de rappeler cette vérité fondamentale. L'homme a une âme qui a besoin d'aliments. C'est la parole de Dieu dont se nourrit l'être intérieur. Et en réponse à la première tentation, le Seigneur Jésus, véritablement homme, prend la place propre à l'homme de dépendance complète envers Dieu. La vie naturelle de l'homme dépend du pain, de la nourriture qu'il s'assimile, et de la même façon, sa vie spirituelle dépend de la parole de Dieu qu'il s'assimile et à laquelle il obéit. Ensuite, à cet homme parfaitement dépendant, Satan offre à la fois tous les royaumes du monde et leur gloire. Et là, on se dit combien ont vendu leur âme pour infiniment moins. Le monde, en fait, fait partie de l'héritage destiné au Seigneur Jésus, que le diable le veuille ou non, d'ailleurs. On voit que ce soit la terre entière ou un simple morceau de pain, Christ ne voulait rien recevoir sinon de la main de son Père. Et à la deuxième tentation, le Seigneur répond donc par son entière obéissance et consécration à Dieu. Puissance, gloire, domination en elles-mêmes ne sont rien pour lui, parce qu'il n'a qu'un seul but, adorer et servir Dieu. Alors Satan insinue pour la seconde fois, si tu es le Fils de Dieu, le fameux « si » qui met très mal à l'aise, si tu es le Fils de Dieu, comme si la chose était à prouver. C'est d'ailleurs mettre en doute ce que le Père vient de proclamer solennellement juste avant. Autrement dit, c'est tenter Dieu. Parce que tenter Dieu, c'est mettre en doute ce qu'il dit. Et du coup, lui demander des preuves et des signes qui corroborent ce qu'il dit. Or, quand on croit, on n'a pas besoin de preuves. Le contraire montre combien notre foi est faible, combien notre confiance est fragile. Le Seigneur fait face à la troisième tentation où Satan l'incite à mettre la fidélité de Dieu à l'épreuve par sa confiance inébranlable en Dieu. Le grand adversaire ne trouve aucune prise pour l'attaquer. Le Seigneur se confie en Dieu sans avoir besoin de le mettre à l'épreuve. Il est important de dire que Jésus n'aurait pas pu être un modèle pour nous dans la tentation s'il avait vaincu le diable en vertu de sa puissance divine. Or, ça n'est pas ce qui est arrivé, il triomphe, et c'est ce qui est remarquable, par les armes qui sont à la disposition de l'homme, à la disposition de chacun ici. Une dépendance entière de Dieu, une obéissance absolue à sa parole, et une confiance inébranlable en ses promesses. Ces trois caractères exposés ainsi d'une manière si marquante, dépendance, obéissance, confiance, sont ceux qui distinguent l'homme parfait. C'est facile à retenir. Dépendance, obéissance, confiance. Ce texte nous montre le combat entre l'homme et Satan. On y assiste à la victoire écrasante de Jésus, qui par là nous redonne à chacun le titre perdu d'homme véritable. Comme celui que nous avions en Éden avant la chute, l'homme comme étant fils de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous pouvons être dans la vraie paix qu'il nous a acquise. Ce texte nous parle de la bénédiction que nous, pécheurs, nous obtenons de la main du Fils de Dieu. Cette bénédiction est pour nous comme le butin de la victoire. Par le péché, nous avons été déchus de toute la bénédiction de la création, qui était autrefois la nôtre en Éden, que nous avons perdue. Et maintenant, toute bénédiction est le fruit de la victoire de Jésus. Notre cœur peut le saisir et en jouir avec assurance, parce qu'en Christ, nous possédons réellement cette bénédiction. Celui qui bénit s'est qualifié lui-même pour bénir les autres. Il a gagné cette bénédiction et il peut la conférer. Par conséquent, nous connaissons notre droit à être bénis par Jésus. Aussi sûrement qu'Adam connaissait le sien à être heureux en Éden, même si ça n'a pas duré très longtemps, en tout cas au vu des pages, du nombre de pages. On ne sait pas le temps que ça a duré, mais... Voilà le caractère de la bénédiction que le Seigneur nous donne à nous, pécheurs. Rempli de l'Esprit-Saint, il affronte le combat avec le diable pour lui résister et le défaire. Et ensuite, plein de ce même esprit, il va dans la suite de l'Évangile rencontrer des pécheurs pour les bénir, pour les guérir, pour les sauver. Et depuis ce jour de victoire dans le désert, il a rencontré sur le mont du Calvaire celui qui avait le pouvoir de la mort, et par sa mort, il l'a détruit. Il s'est avancé en résurrection pour partager de nouveau cette victoire avec tous ceux qui mettraient leur confiance en lui. Et nous, le cœur plein de certitude, plein d'assurance, nous contemplons ces glorieuses bénédictions et nous pouvons en profiter. La seule question, je dirais, c'est de se dire où est le pécheur pour apprécier la bénédiction et pour se parer lui-même de cette victoire acquise par le Fils de Dieu. Je dis que c'est la question parce que l'homme ne fait pas attention aux bénédictions. L'homme ne s'occupe pas d'une victoire dans laquelle le prince de ce monde a été jugé, ni du butin de cette victoire.
Écoutez, je suis au milieu des bêtes sauvages, délivrez-moi. Je suis dans le désert, je crois en Jésus-Christ.
L'homme n'a pas attendu aujourd'hui pour vendre cette bénédiction pour 30 pièces d'argent ou pour un potage de lentilles, hein, si on regarde dans l'Ancien Testament. Mais voilà, ce chapitre nous montre aussi que l'amour du Fils de Dieu ne peut ni se lasser ni s'épuiser. Son amour est au-dessus de tout refus. Comme depuis, il s'est montré plus fort que la mort. L'amour ne périt jamais, lit-on dans l'Écriture. Alors voilà ce chapitre qui, dans l'Évangile de Luc, nous introduit le ministère du Fils de Dieu. Et nous y voyons une manifestation frappante de ce qu'est l'homme. Alors avant d'aller plus loin, il nous faut examiner les conséquences pratiques qui découlent pour nous de la victoire remportée par Jésus sur Satan au désert. Parce que ce n'est pas juste un texte pour nous parler de comment le Fils de Dieu résiste au mal. C'est d'abord et surtout pour nous le moyen de voir que nous pouvons nous aussi avoir la victoire sur les tentations de Satan, en employant le même moyen que Jésus, en étant soumis à la parole de Dieu, comme nous y a introduit la liturgie. L'ennemi veut avant tout empêcher le croyant d'obéir, parce que la désobéissance le prive de la communion avec Dieu, le détourne de la vérité, elle déshonore Dieu et elle produit de l'obscurité dans l'âme. La désobéissance égare toujours plus. Quel encouragement pour nous que ce texte, que nous soyons jeunes ou vieux, de savoir que malgré la présence et l'activité d'un si puissant adversaire sur notre route, nous pouvons avancer sans qu'il nous atteigne, à la condition, j'allais dire simple, même si en pratique ça l'est pas toujours, d'écouter la parole de Dieu et de lui obéir. Lorsque Satan rencontre en nous cette obéissance à la parole, il se retire, comme il a dû se retirer de devant Jésus. « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous, » dit Jacques. Et dans l'épître de Pierre, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui étant ferme dans la foi. » Et nous ne pourrions lui résister si le Seigneur Jésus ne l'avait pas vaincu Mais si, en présence de l'obéissance, Satan subit une défaite, il nous faut nous souvenir que si nous le laissons agir, si nous péchons, nous lui offrons une prise facile quand même aussi. Alors de cette tentation de Jésus découle une importante vérité à laquelle nous devons prêter attention. C'est que pour pouvoir obéir à la parole, pour pouvoir éventuellement la citer en face du tentateur, eh bien il faut la connaître. Il faut la lire dès son plus jeune âge. C'est là la véritable instruction sans laquelle tout autre enseignement n'offre aucun profit pour l'éternité. Et d'ailleurs, un manuel d'instruction publique du XVIIIe siècle, à l'usage des instituteurs, déclare que l'enseignement de la Bible doit être à la base de toutes les branches d'études, car tout le reste en découle. Alors hélas, en prétendant avoir fait des progrès, on a bien reculé depuis cette époque-là. La parole de Dieu ne fait plus partie de l'enseignement public, mais en revanche, elle se trouve dans toutes les familles. On peut la lire chaque jour. On a cette liberté immense dans ce pays quand même, ce qui n'est pas le cas partout. Il faudrait non seulement se contenter de la lire, mais aussi, selon une ancienne coutume courante dans les écoles et les familles à une certaine époque, en faire apprendre des portions aux enfants de tous âges. Parce que ce qu'on apprend dans sa jeunesse demeure pour la vie. C'est un capital qui porte de multiples intérêts, dont les bienfaits se répandent dans toute la carrière à la gloire de Dieu et pour le bonheur à la fois présent et éternel de celui qui possède un pareil trésor. Ainsi, avec ce texte, sont mis en lumière trois des causes principales qui sont à l'origine du déclin et qui expliquent notre si grande faiblesse et tant de chutes dans la chrétienté. La première, c'est d'être nourri de Christ. Notre âme a besoin d'un aliment. Christ, pain de vie, de toute parole de Dieu dont l'homme est appelé à vivre. Et s'il y a si peu de manifestations de la vie, si peu de vie en nous, c'est en premier lieu, je crois, parce que nous nous nourrissons spirituellement de ce que nous devrions rejeter. Tandis que nous laissons de côté ce qui nous est proposé par Dieu comme le seul vrai aliment de notre âme. Alors voilà, il nous faut rééquilibrer notre alimentation spirituelle, et c'est ce que nous propose le temps du carême. Pas tant de changer notre alimentation physique, même si cela peut nous aider à aller plus loin, mais plutôt de jeûner de ce qui ne nourrit pas notre âme. Cesser de se nourrir en quantité des choses du monde. Télé, radio, musique, publicité, pensée. Là aussi, la liste pourrait être longue. Et se nourrir davantage des choses de Dieu. Prière, louange, écriture sainte, etc.
Le diable couché.
Merci.
Effectivement, nul ne peut servir deux maîtres. C'est la deuxième chose que nous apprend ce texte. Au lieu de le servir lui seul, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous servons souvent le mammon qui nous présente en figure les richesses, tout ce que le monde peut offrir dans son apparente prospérité. Et tout cela pour avoir cette autorité et la gloire de ses royaumes, une place, un nom, un titre, une position dans le monde dont Satan est le prince. Le danger, en fait, n'est pas tellement de nous trouver dans telle ou telle position, à condition que ce soit le Seigneur qui nous y ait placés. Parce que le Seigneur peut garder fidèles ceux qui sont dans une position d'autorité dans le monde et faire qu'ils sachent beaucoup mieux que d'autres ce que c'est que de se séparer d'avec le monde, bien qu'en étant dans le monde. Le danger, c'est plutôt dans la recherche de ces choses. Un danger qui est particulièrement grand quand nous ne les possédons pas et que l'ennemi les place devant nous, les fait miroiter là, en essayant de nous tenter. Et la troisième de ces causes, c'est la parole de Dieu qu'il nous faut appliquer correctement par l'esprit. Et là, c'est aussi un peu sournois et c'est quelque chose dans laquelle parfois nous pouvons tomber. Au lieu de nous servir de la parole dans la dépendance de l'esprit, qui seul peut nous donner la pensée de Dieu, nous nous arrêtons parfois à une parole de Dieu dont nous faisons une fausse application, parce que nous la sortons, nous la considérons à part du reste de la révélation. Chose plus grave encore, nous nous servons parfois d'une telle parole pour essayer de justifier une conduite, un égarement doctrinal ou moral, dont il est manifeste qu'elle n'est pas selon les enseignements de la parole de Dieu. Et là, alors, on cite des versets, on tombe dans un piège, mais qui est énorme. En prétendant obéir à Dieu, nous sommes, sans nous en douter la plupart du temps, le jouet de l'adversaire, dont les ruses nous prennent en défaut. Parce que Satan présente ce qui n'a aucune apparence de mal. Le mal serait pour quelqu'un de faire sa propre volonté, tout simplement, ce qui paraît pas bien grave. Or, ce qui résout toute difficulté, c'est de se demander non pas quel mal y aurait-il à faire ceci ou cela, parce que souvent la réponse n'est pas toujours très claire, mais plutôt, pourquoi est-ce que je fais ceci ou cela? Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est pour moi? Alors voilà les vrais dangers, ne pas nous nourrir spirituellement de manière correcte, mais croire qu'on le fait, puisqu'on est chrétien quand même, puisqu'on connaît et même qu'on cite parfois la parole de Dieu. Alors on se dit que quelques concessions ne sont pas bien graves, que mélanger Dieu et le monde, ça va quand même marcher, mais non. Rappelons-nous les trois attitudes qui s'opposent à ces dangers, qui sont celles de Christ, la dépendance, l'obéissance et la confiance. Que le sentiment de notre grande faiblesse et des dangers que nous courons nous conduisent à nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Que ça nous conduise à nous revêtir de l'armure complète de Dieu, afin d'être rendus capables de tenir ferme contre les artifices du diable, dans cette lutte incessante que nous avons à mener contre cette puissance spirituelle dans les lieux célestes. Et pour cela, il nous suffit de regarder à celui qui est à la fois dans cette lutte notre modèle parfait et notre secours. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, il a souffert lui-même étant tenté, et c'est pourquoi il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Le secret de la force, dans une grande mesure, c'est d'avoir la parole de Dieu cachée dans son cœur et de lui obéir. Comme le dit le cantique, la force est en Christ. Lorsque je serai dans les difficultés, dans la tentation, pensez-vous que l'Esprit de Dieu pourra m'aider en me remémorant un verset que je n'ai pas d'abord mis en réserve dans mon cœur? Non. Je crois que si j'ai été négligent et paresseux dans la lecture de la parole de Dieu, cette parole ne sera pas cachée dans mon cœur. Je ne pourrai pas aller la chercher. L'Esprit de Dieu ne peut pas me rappeler un verset que je n'ai jamais lu. Il peut le faire, mais il ne le fera pas. On a notre responsabilité quand même. Permettez-moi d'insister sur le fait que nous ne saurions surestimer l'importance d'avoir notre esprit rempli de versets de l'Écriture. Que le Seigneur mette tout à nouveau dans notre cœur le désir de le connaître, de lire, de méditer, de repasser sa parole. Qu'ainsi nous soyons fortifiés et enracinés en lui afin de tenir ferme face aux malins. Méditons encore une fois ces paroles du psalmiste qui dit « J'aime ta parole, Seigneur, je la médite jour et nuit. Elle est continuellement dans mon cœur et sur mes lèvres » et beaucoup d'autres passages encore. Que ce soit aussi notre désir, notre attitude et notre vie. Amen.